Très bon réveil, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il a effectué la route arctique en 5 semaines seulement. Un premier porte-conteneur fait la route du Nord, dans l'Arctique donc. Une révolution pour le fret mondial, grâce à la fonte des glaces. Explication dans un instant.
Et puis nous irons ensuite en Martinique, où Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone, un insecticide qui a contaminé 90% des habitants.
L'Italie prend le risque de se mettre à dos l'Union européenne et les marchés financiers. Le gouvernement s'est mis d'accord hier sur un budget à fort déficit, préférant faire passer ses réformes sociales.
En Allemagne, le président turc Erdogan doit rencontrer la chancelière Angela Merkel, un président très soutenu par la communauté turque outre-Rhin, vous l'entendrez.
Et puis nous nous intéresserons à l'Office de Cluny, une association présente partout en France pour organiser des spectacles, mais montrer du doigt pour d'éventuelles dérives sectaires, c'est une enquête France Culture. Doit-on se réjouir de voir s'ouvrir une nouvelle route pour le fret mondial, plus rapide, pour passer par le nord de l'Asie? Ou doit-on s'inquiéter de voir dans le même temps les glaciers de l'Arctique fondre anormalement vite? La fonte des glaces a ouvert ces derniers mois ce qu'on appelle le passage du nord-est le long des côtes de Sibérie. Un porte-conteneur danois a pu l'emprunter pour relier Vladivostok à Saint-Pétersbourg. Il y est arrivé hier. Pour la première fois, il a donc franchi l'Arctique par le nord, du jamais vu pour un navire de cette taille, Isabelle Labéry.
Son voyage aura duré 5 semaines à travers la banquise. Avec ses 3600 conteneurs chargés de produits électroniques sud-coréens et de poissons congelés, le Ventamersk, navire flambant neuf construit cette année, a sans encombre tracé sa route derrière un brise-glace. Car le réchauffement climatique a fait son œuvre. En quelques décennies, la calotte glaciaire de l'Arctique a perdu près de la moitié de sa surface et il a fait presque 30 degrés en Sibérie cet été. Les glaces n'ont pas disparu, mais elles ont suffisamment fondu pour rendre la route plus praticable. Rallier l'Asie à l'Europe par le pôle Nord est un voyage bien plus coûteux que la route du Sud et le passage par le canal de Suez, en raison de la présence nécessaire des brise-glaces, mais il est surtout plus sûr, pas de risque de piraterie, et beaucoup plus rapide, 15 jours de moins en moyenne. L'armateur danois numéro 1 mondial présente cette première comme un simple test. L'ouverture d'une ligne commerciale régulière n'est pas envisageable avant une dizaine d'années. Mais la Chine, dont 90% des marchandises sont transportées par voie maritime, et surtout la Russie, veulent aller vite. Dans son projet de budget d'ici 2021, Moscou a même prévu d'investir plus de 516 millions d'euros dans la construction de brise-glace nucléaire et le développement de ses infrastructures portuaires.
Là aussi, il s'agit de rentabilité. Sur les plantations de bananiers, notamment en Martinique et en Guadeloupe, le chlordécone, un insecticide interdit dès 1977 aux États-Unis, a été utilisé aux Antilles jusqu'en 1993 pour lutter contre le charançon. Hier, le président Emmanuel Macron, en visite aux Antilles, a annoncé que la France allait reconnaître ce scandale environnemental. L'exposition à cet insecticide sera reconnue comme maladie professionnelle. Selon l'agence Santé publique France, 90% de la population adulte en Martinique et en Guadeloupe est contaminée au chlordécone, à la chlordécone, disent les habitants aux Antilles. C'est un reportage de Cyril Gradiani.
Une ferme maraîchère au pied de la montagne Pelée. Les sols ont été contaminés par la chlordécone. Monsieur Mussy ne peut plus faire pousser ce qu'il veut.
Je ne peux pas planter de ligname, je ne peux pas planter des dachines, je ne peux pas planter des patates. Oui. J'aimerais gagner.
Et donc à la place, vous plantez quoi sur ces mêmes terres?
Eh bien, tout ce qui est...
Faites-moi. Oui.
Tout ce qui est là.
À la place, donc, des herbes aromatiques, des aubergines et autres choux qui lui rapportent moins. En Martinique, près de 15 000 hectares ont été pollués par ce perturbateur endocrinien. Hier, Emmanuel Macron a donc reconnu la part de responsabilité de l'État.
La pollution à la chlordécone est un scandale environnemental.
Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une procédure permettant de reconnaître l'exposition à la chlordécone comme maladie professionnelle, mais concernant les réparations individuelles, là, il freine alors que la chlordécone a contaminé 90% des habitants.
L'état des connaissances scientifiques, qui est aujourd'hui le nôtre, permet de constater la présence de chlordécone dans le corps humain. Mais il ne permet pas de certifier que cette présence a un effet sur la santé humaine. Toutefois, on présume le lien avec des naissances prématurées, des retards de développement cérébral et d'autres pathologies. Mais il n'y a pas aujourd'hui de preuves scientifiques établies de cela.
Emmanuel Macron poursuit, si je disais qu'on va indemniser tout le monde, c'est impossible même budgétairement et ce serait irresponsable.
Alors, le chef de l'État se savait très attendu sur ce sujet en Martinique. Il avait donc préparé sa réponse. Dans la journée, c'est en Guadeloupe qu'il ira, où les algues toxiques, les sargasses, envahissent les plages. Pendant ce temps, hier, le Premier ministre, lui, était sur le plateau de l'émission politique de France 2. Édouard Philippe se dit désormais favorable, à titre personnel, à l'extension de la procréation médicalement assistée, la PMA, pour toutes les femmes en France. Il s'est aussi prononcé sur la dégressivité des allocations chômage, dans certains cas, a-t-il dit, pour les hauts salaires. Édouard Philippe a ensuite débattu avec le patron du Parti Les Républicains, Laurent Wauquiez. Un duel des droites qui laisse entrevoir une campagne musclée pour les élections européennes. C'est ce que nous dira Frédéric Seyss après ce journal.
Le gouvernement de coalition italien veut tenir ses promesses, Clara Lecoq-Réal.
Il annonce donc une baisse des impôts en Italie, une retraite anticipée pour 400 000 Italiens également, des souhaits qui avaient été formulés par la Ligue d'extrême droite au pouvoir. Son allié de circonstance, le mouvement populiste des 5 étoiles, obtient lui un revenu de citoyenneté, 780 euros par mois, versé à 6,5 millions d'Italiens modestes dès l'année prochaine. Les 5 étoiles ont fêté tout cela hier soir à Rome. Cela a été acté par le budget 2019, au prix toutefois d'un déficit qui ne va pas se réduire à 2,4% du PIB pour les 3 prochaines années, ce qui est contraire aux préconisations du ministre des Finances italien, aux recommandations aussi de l'Union européenne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en Allemagne aujourd'hui pour pacifier la relation entre les deux pays. Ankara reproche toujours à Berlin la timidité de son soutien après le putsch raté en 2016. Et l'Allemagne, de son côté, condamne toujours la dérive répressive de la Turquie. Deux pays qui se critiquent mutuellement, mais qui sont liés démographiquement. Plus de 3,5 millions de Turcs vivent en Allemagne, sans parler des citoyens allemands d'origine turque. Lors de la dernière présidentielle en Turquie, qui, au mois de juin, Erdogan leur avait accordé le droit de participer au scrutin. À la surprise de nombreux observateurs allemands, 63% des votants avaient soutenu le président turc. Et c'est encore le cas, vous nous le prouvez, Ludovic Piétenu, dans les rues de Berlin.
Quartier de Neukölln, au sud-est de la capitale. Beaucoup de restaurants, des cafés, des épiceries sont tenus par des Turcs. Leur parler d'Erdogan. C'est obtenir ce genre de réponse. Il est très bien, c'est un bon président. Personne n'y trouve vraiment à redire. Il faut de l'autorité, explique Aylin, né en Allemagne il y a 36 ans. Il en faut pour avoir le peuple derrière soi. C'est un homme qui fait ce qu'il a dit et grâce à lui, tout le monde se porte bien. Quartier voisin de Kreuzberg, à Kottbusser-Tor, surnommé la petite Istanbul, pour la deuxième ou troisième génération, ce qui compte, ce n'est pas Erdogan, c'est la vie en Allemagne et le racisme, plus fort qu'avant.
Des gens sont contre les étrangers, contre les Turcs. Dès qu'on est un peu bronzé, on est turc.
Aïcha n'est pas née en Allemagne, elle est là depuis 30 ans et selon elle, le regard des Allemands a changé.
Ils disent willkommen, bienvenue, mais ils n'ont pas encore accepté les Turcs. Je ne comprends pas. Ma fille a un passeport allemand, elle est toujours insultée, qu'on la traite comme une étrangère. Le racisme existe toujours.
À ses côtés, Ahmed s'en prend aux politiques. On nous bassine avec l'intégration, mais ils n'ont rien fait pour.
C'est un problème. Mon grand-père, ma mère sont depuis 30 ou 40 ans en Allemagne, mais on ne les considère pas. Pourquoi on s'en moque ? Mon patron est turc, il a 3 hôtels, 13 restaurants. Et pourquoi on dit qu'il ne s'est pas intégré ?
Allemand quand on gagne, immigré quand on perd, c'est Mesut Özil, le joueur de football, qui a mis les pieds dans le plat cet été. Un sentiment de rejet qui peut en partie expliquer le vote massif il y a 3 mois des Turcs d'Allemagne en faveur d'Erdogan.
Recep Tayyip Erdogan qui rencontrera la chancelière allemande Angela Merkel en fin de matinée tout à l'heure. La police néerlandaise évoque un attentat terroriste majeur déjoué dans le pays. 7 personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'avoir voulu perpétrer une attaque aux Pays-Bas à l'aide de ceintures explosives et de fusils d'assaut notamment. Revenons maintenant sur l'audition du juge Brett Kavanaugh. C'était hier soir aux États-Unis, une audition suivie par des millions d'Américains à la télévision. Le magistrat, candidat à la Cour suprême et soutenu par Donald Trump, s'est défendu devant le Sénat, démentant catégoriquement les allégations de Christine Blasey Ford, entendues longuement auparavant. Elle a maintenu ses accusations d'agression sexuelle. Lui a juré devant Dieu dire la vérité. Retour sur ses 9 heures d'audition, Grégory Phillips.
Elle, la voix tremblante mais tout en retenue, raconte cette soirée de l'été 1982. Christine Blasey Ford dit être certaine à 100% que c'est bien Brett Kavanaugh qui ce soir-là, ivre, tente avec un camarade de la déshabiller de force et de la violer. Le témoignage est précis et paraît convaincant.
J'ai essayé d'appeler à l'aide. Brett a mis sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. C'est ça qui m'a fait le plus peur et qui a eu le plus d'impact dans ma vie après. C'était difficile pour moi de respirer. J'ai cru que Brett allait me tuer accidentellement.
Puis, 2 heures plus tard, c'est au juge de donner sa version des faits. Lui est colérique, il paraît blessé et ne parvient pas à retenir les larmes quand il dit par exemple que son nom et sa réputation ont été détruits par ces accusations.
Ma famille a été menacée violemment, mais ça ne me fera pas reculer. Je n'ai jamais agressé quelqu'un sexuellement, ni au lycée, ni à l'université, jamais.
Parole contre parole, il n'y aura pas d'enquête du FBI. Les 21 parlementaires de la commission judiciaire du Sénat vont devoir seuls se faire leur propre opinion. Ils voteront ce matin pour dire si le juge Brett Kavanaugh peut ou non poursuivre sa route vers la Cour suprême.
Alors Donald Trump, lui, a déjà tranché et publiquement, le président américain réaffirme son soutien aux magistrats. La nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême pourrait surtout donner aux conservateurs une majorité forte pour trancher ensuite sur des questions importantes dans la société américaine. Aung San Suu Kyi n'a plus la nationalité canadienne honorifique. Les députés canadiens l'ont voté à l'unanimité hier. Ils reprochent à la dirigeante birmane de ne pas avoir dénoncé le génocide de la minorité musulmane des Rohingyas. Il est 8h, passé de 11 minutes sur France Culture. Le théâtre peut-il servir d'instrument pour une emprise sectaire? La question se pose à la lumière de l'enquête que vous avez réalisée, Cécile de Kervas-Doué, bonjour.
Bonjour.
Une enquête sur l'Office culturel de Cluny, une association qui depuis 50 ans a créé une trentaine de structures culturelles. Sous des noms différents, elle propose des expositions, des spectacles, de l'animation culturelle pour les enfants, notamment dans toute la France. L'Office culturel de Cluny est largement subventionné, mais elle est aussi montrée du doigt pour d'éventuelles dérives sectaires et, Cécile, de nombreux artistes et organismes culturels prestigieux y sont associés sans toujours le savoir.
Oui, c'est le cas de la prestigieuse cartoucherie de Vincennes. Cette semaine, le théâtre de l'Épée de Bois devait y accueillir pour la 3e fois en 3 ans la troupe du théâtre de l'Arc-en-Ciel avec cette pièce. Cette troupe, c'est la troupe historique de l'Office culturel de Cluny. Et sa particularité, c'est que c'est aussi une communauté religieuse. C'est-à-dire que les membres y mettent en commun leurs biens, ils font des vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, mais sans reconnaissance de l'Église. Alors en apprenant ça, le directeur de l'Épée de Bois, Antonio Diaz-Florian, a préféré tout annuler.
Moi, j'avais aucun soupçon. C'est la première fois de ma vie théâtrale où je me trouve confronté à devoir regarder plus loin que ce qui se passe sur le plateau. Je me rends compte que nous autres pratiquants du théâtre, on ne peut pas s'arrêter seulement au jugement artistique, l'art pour l'art, et oublier autre chose qui peut produire l'art, c'est-à-dire le résultat de cette beauté a impliqué beaucoup de souffrance à d'autres.
Car la maison mère de cette compagnie de théâtre a été condamnée par la justice en décembre dernier à verser 1 million d'euros à 21 anciens membres. Le fondateur de cette organisation a également été accusé d'abus sexuels. Pourtant, les 29 satellites de l'Office culturel de Cluny continuent de recevoir de nombreuses subventions et d'être soutenus par les élus, comme si l'information sur ces questions était difficile à faire passer. En tout cas, c'est l'analyse de Serge Biscot, c'est le président de la MIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires.
On est aujourd'hui dans la liberté individuelle. Et donc, quand on a affaire au monde religieux ou périreligieux, le pouvoir politique prend certaines précautions pour justement ne pas donner l'impression que le pouvoir politique interfère dans le fonctionnement d'une religion.
Le responsable de la communauté m'ont assuré que depuis la révélation des abus sexuels en février dernier, le fondateur de l'Office, Olivier Fenoy, a quitté toutes ses fonctions. Il rajoute que leur religion reste une affaire privée.
Merci Cécile de Kervas-Doué pour cette enquête que vous nous présenterez en longueur ce soir sur France Culture dans le journal de 18h. La société d'études IRI estime en France pour le premier semestre de cette année que les ventes dans l'alimentation et les produits d'hygiène ont baissé d'1,2%. Les Français sont de plus en plus nombreux à consommer moins, différemment, pour diverses raisons. Cela s'appelle la déconsommation. Lise Verbeck y a consacré son grand reportage qui sera diffusé ce soir sur France Culture. Elle a notamment interrogé Herveline Verbecken, qui a co-créé un groupe sur Facebook intitulé « Gestion budgétaire, entraide et minimalisme ». Plus de 130 000 personnes y adhèrent. Elle nous explique pourquoi.
Le principe du groupe, en gros, c'est d'aider les gens à s'en sortir financièrement parlant, mais avec des astuces écologiques et éthiques. On a mis en place des défis pratico-pratiques comme ça, des défis zéro déchet, des choses comme ça. Et puis, on a fait aussi quelques défis pour que les gens réfléchissent sur leur rapport à la consommation, mais aussi à leur propre bonheur, ce que ça leur fait à eux, en fait, de consommer mieux. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, les gens étaient plus heureux au bout de la démarche. Au début, ils arrivent par hasard, en général. Et puis, ils se disent, c'est quoi, c'est fou. Et puis, en fait, s'ils font la démarche de rester pour lire, en fait, il y a beaucoup d'idées reçues qui finissent par tomber. Il y a des choses un petit peu difficiles, par exemple, il y a des questions, parce que nous, on valide des questions, des fois, qui sont très éloignées des problématiques de départ des gens. Par exemple, les questions qui reviennent souvent et qui sont toujours un petit peu surprenantes pour les gens qui arrivent, c'est la question du PQ. Qu'est-ce qu'on fait pour le PQ, du coup ? Voilà, des choses comme ça. Et ben là, les gens sont un petit peu surpris, mais finalement, on les voit revenir au bout d'un moment et ils font leur démarche, ça leur apporte quelque chose. Et finalement, le fait d'être plus confiant d'un point de vue financier, et puis de moins dépendre de la société de consommation, leur témoignage, c'est que finalement, après, ils sont plus heureux dans leur vie.
La déconsommation, est-ce une mode ou une nécessité ? C'est un grand reportage de Lise Verbeek que vous pourrez écouter ce soir sur France Culture entre 17 et 18 heures. Mais vous pouvez déjà découvrir sa page internet sur franceculture.fr. Une grève européenne chez Ryanair aujourd'hui. 40 000 passagers seront touchés et au total, près de 250 vols devraient être annulés. Des salariés basés en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal ont déposé un préavis de grève. Ils veulent faire pression sur la direction pour améliorer leurs conditions de travail. Dans le ciel encore, mais la météo cette fois en France pour ce vendredi. Toujours ensoleillé, malgré quelques nuages qui devraient passer par le nord ce matin. Côté température, il fait 15 degrés à Lille, 17 à Rennes et Strasbourg, 20 degrés à Bordeaux, 21 à Grenoble, 25 à Perpignan.